La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
La dialectique. Il faut conclure ce mois sur le corps politique et sur la politique par une émission sur la dialectique. Pourquoi ? Parce que Hegel est le grand penseur de la politique moderne. Et à Hegel est associé le mot dialectique. Alors c'est peut-être une vision erronée de Hegel, mais elle traîne dans toutes les têtes. On vous dira, Hegel, c'est thèse, antithèse, synthèse, et c'est un permanent devenir parce que l'esprit s'ouvre, se critique lui-même et se produit lui-même dans le devenir. Mais la dialectique, c'est aussi un héritage aristotélicien et même platonicien. La dialectique, c'est une forme de scolastique. Quand vous ouvrez la somme de saint Thomas, vous avez déjà de la dialectique. Vous avez les questions et on commence toujours par la position adverse à laquelle on va répondre. Donc on a un mouvement dialectique. Autrement dit, est-ce le même mot ou le même sens du mot dialectique chez Platon, Aristote et chez Hegel? Comment le penser? Comment penser la réponse de Maritain à Hegel, sinon par un petit détour par la dialectique? Alors je vais rendre hommage à un autre commentateur de Maritain et disciple, qui est le frère Heinz Schmitz. Toulousain s'il en est, puisque Maritain a été toulousain pendant 12 ans. Il est mort à Toulouse il y a 50 ans maintenant. Nous sommes le 28 avril et les émissions sont enregistrées pour le mois de mai. Eh bien, c'est le jour de la mort de Maritain. En 1973, à 7h du matin, il s'effondrait dans sa petite cabane en bois chez les petits frères de Foucault. Et il a partagé leur vie avant de recevoir l'habit. S'il a reçu l'habit à la fin de sa vie, c'est bien, comme le disent les derniers témoins vivants qui ont été ses élèves au CIREP, pour donner sa vie pour que la jeunesse cherche et trouve la vérité. Il s'agit d'une offrande pour appeler, on va dire, un peu la grâce. Eh bien, le frère Schmitz a été fasciné par Maritain, ça a été un disciple majeur que Maritain appréciait particulièrement. Et frère Schmitz a écrit « Progrès social et révolution », un petit livre, comme vous le voyez, sur la révolution sociale, livre dans lequel il fait une analyse de la dialectique. Et je vais m'appuyer sur ce qu'il dit. Il compare la dialectique aristotélicienne à la dialectique hegelienne. La dialectique aristotélicienne, écrit frère Heinz Schmitz, a ceci en commun avec la méthode socratique et platonicienne qu'elle apparaît comme un instrument d'investigation et de recherche. Elle exprime le mouvement d'une raison qui procède par voie de dialogue avec soi-même, par voie d'échange et de confrontation avec autrui, pour éprouver au feu de la discussion les opinions communément reçues, que celles-ci expriment les données du sens commun ou les vues des gens compétents dans leur domaine respectif. Pour Aristote, cependant, la dialectique est loin d'être la méthode universelle de connaissance qu'elle est pour Platon. Et cela tient au fait qu'il a rompu avec le platonisme sur un point fondamental. Quel est ce point? Le reproche constant qu'Aristote adresse à Platon, c'est d'avoir réifié les rapports de raison. Autrement dit, d'avoir attribué aux choses dans leur réalité extramentale non pas le mode d'existence qui leur appartient en propre, mais les conditions d'abstraction et d'universalité qu'elles ont en tant même que présentes au sein de l'esprit. C'est-à-dire le mode d'existence qui est le leur en tant que connu. Alors je vais ici préciser, la connaissance pour un philosophe réaliste se fait par intentionnalité. C'est-à-dire que le sujet connaissant devient par intentionnalité l'objet connu. Et donc, il y a un mode spécifique de la connaissance qui ne peut absolument pas être rabattue sur le mode d'existence de la chose. Maritain consacrera une annexe au concept à la fin des degrés du savoir, écrit en 1932, et cette annexe concerne le concept comme signe formel. Il est très important de garder à l'esprit cette différence entre le mode de connaissance par intentionnalité et le mode d'existence de la chose. Si on rabat le mode de connaissance sur l'existence, on tombe dans ce que Maritain désigne par l'idéalisme. Et donc, c'est au fondement de cet idéalisme, dans la différence entre Platon et Aristote, que Frère Heinz se situe pour marquer de manière radicalement différente la dialectique chez Aristote et chez Platon. Pour Aristote, il ne saurait être question de projeter dans le réel, écrit Frère Schmitz, les conditions idéales qui ne conviennent qu'à l'objet en tant qu'objet connu et non pas à l'objet en son existence hors de l'esprit. Ni être question, par conséquent, de donner aux relations logiques le statut de relations constitutives de l'être. Autre est aux yeux d'Aristote la science qui porte sur les choses elles-mêmes, autre celle qui prend pour objet les idées ou concepts selon qu'ils s'enchaînent dans le discours. La dialectique appartient à cette dernière, car elle considère les choses non pas selon ce qu'elles sont en elles-mêmes, mais selon l'ordre des concepts entre eux. Il s'agit donc là d'une discipline ressortissant au domaine de la logique. Alors, si la dialectique est logique, elle est donc une méthode de raisonnement dont la matière est le probable, le vraisemblable, et dont l'élément formel est le moyen terme ou le médium caractéristique de tous les arguments dialectiques. C'est très important de garder cette différence et notons que Maritain a écrit aussi une grande et une petite logique, parce qu'il est très important de savoir ce dont on parle. La méthode dialectique, au sens d'Aristote, ne procure pas un savoir proprement dit. Car pour connaître une chose en son intelligibilité intrinsèque, l'esprit doit atteindre jusqu'aux raisons nécessaires, immédiates et propres. Ainsi, avant d'en venir à l'idée hegelienne de la dialectique, il convient de rappeler, écrit Frère Schmitz dans « Progrès social et révolution », que le terme même de dialectique est loin d'avoir toujours été ce vocable qui fait l'enchantement des modernes. Il a connu au contraire un long temps de disgrâce, à tel point qu'à partir de la Renaissance, le mot tendit à disparaître du vocabulaire de la philosophie. Alors, Frère Schmitz fait un rapide parcours que je vous propose. En ce qui concerne les critiques qu'au cours de ses ouvrages, il adresse à la logique sous le nom de dialectique, Descartes a eu un précurseur de taille, Martin Luther. Si le premier, c'est-à-dire Descartes, s'en est pris aux lois qui caractérisent le mouvement d'un esprit qui est avant tout raison au nom d'un certain rationalisme, le second, c'est-à-dire Luther, a mené ses attaques contre la raison et la logique, au nom d'une expérience religieuse et d'une foi et d'une théologie nouvelle. « Je crois, écrit Luther le 9 mai 1518, qu'il est impossible de réformer l'Église à moins que la théologie scolastique, la philosophie, la logique, telles que nous les tenons maintenant, ne soient radicalement extirpées et d'autres études instituées. Et Spalatin, qui lui demande dans quelle mesure il estime que la dialectique est utile aux théologiens, Luther répond « Raisonnablement, je ne vois pas comment la dialectique n'est pas plutôt nuisible aux véritables théologiens. J'accorde qu'elle peut être un jeu ou un exercice utile à de jeunes esprits, mais dans les lettres sacrées, où la foi pure et céleste est prise comme lumière, il faut abandonner à l'extérieur tout syllogisme et n'agir pas autrement qu'Abraham qui, se rendant au sacrifice, laissait les serviteurs avec les ânes. » La même nuance péjorative fait remarquer frère Heinz Schmitz du terme de dialectique se retrouve jusque chez Kant et d'une façon peut-être plus accusée encore que chez Descartes. C'est seulement avec Hegel qu'a lieu le changement spectaculaire auquel le mot de dialectique doit le prestige et la fortune extraordinaire qu'il a acquise dans les temps modernes. Tandis qu'Aristote avait regardé la dialectique comme une méthode d'investigation et de recherche, comme une sorte de logique du probable, pourrait-on dire, ce qui frappe dès l'abord chez Hegel, c'est que sa démarche dialectique apparaît comme la méthode universelle de tout savoir. Bien plus, sa dialectique sera à la fois démarche de l'esprit connaissant et démarche de la réalité elle-même. Que l'esprit et les choses se trouvent ainsi obéir à une même loi, cela tient au fait que Hegel les a fondus dans un même tout. Or, cette totalité est pour lui essentiellement devenir, essentiellement évolution. Il faut noter cependant qu'à regarder de près, les termes de devenir et d'évolution ne décrivent en fait que formal le processus dans lequel la totalité est engagée. Il s'agit en réalité d'un processus d'auto-mouvement qui n'est nullement un devenir proprement dit, ni non plus un développement. Si l'on peut parler d'évolution, ce n'est pas dans le sens où le mot évoque un progrès, mais dans ce sens que la totalité, tout au long de son mouvement, se désenveloppe en passant par des figures successives pour mieux s'absorber en elle-même. La totalité hegelienne se meut pour s'approprier cela même qu'elle n'a pas cessé d'être, autrement dit, pour se réaliser et se saisir elle-même comme résultat. La dialectique permet de saisir la totalité comme résultat, on voit que la contradiction va jouer un rôle fondamental chez Hegel. La seule chose nécessaire pour obtenir la progression scientifique et vers la compréhension tout à fait simple de laquelle il faut essentiellement s'efforcer, écrit Hegel dans la science de la logique, c'est la connaissance de la proposition logique. Le négatif est également positif. Autrement dit, ce qui se contredit ne se résout pas en zéro, en néant abstrait, mais essentiellement en la négation de son contenu particulier. Autrement dit encore, une telle négation n'est pas complète négation, mais négation de la chose déterminée qui se dissout. Donc, négation déterminée. Donc, le résultat contient essentiellement ce dont il résulte. Ce qui est à vrai dire une tautologie, car autrement, il serait un immédiat et non un résultat. Le résultant, la négation, est en négation déterminée à un contenu. Elle est un concept nouveau, mais plus haut, plus riche que le précédent, car elle s'est enrichie de sa négation, autrement dit de son opposé. Elle le contient donc, mais aussi plus que lui. Elle est l'unité d'elle-même et de son opposé. C'est dans cette voie que le système des concepts doit s'établir et s'accomplir dans une progression irrésistible, pure, qui ne fait rien entrer du dehors. Contradiction et négativité permettent d'avancer, d'aller toujours plus haut. Et c'est un permanent devenir qui est donc au fondement de la nouvelle dialectique pensée par Hegel. La contradiction constitue l'âme motrice de la réalité. Elle est principe moteur de la pensée et âme motrice. Du coup, dans les principes du fondement du droit, on passe de la famille à la société civile et à l'État par ce mouvement de progression où rien n'est annulé, rien n'est nié, mais tout est absorbé dans quelque chose de plus grand qui va vers une existentialité plus forte. En allemand, c'est le mot « Wirklichkeit », effectivité, hein, on pourrait le traduire par effectivité, qui va s'incarner dans l'État comme effectivité la plus haute, la plus totale. Et du coup, la dialectique hegelienne n'est plus que méthode. Elle est à la fois objet et méthode, processus de la réalité et démarche de la pensée. Et c'est ce double aspect qui en fait, aux yeux de Hegel, toute la valeur. Alors, comment revenir à une pensée de l'État? Vous comprenez bien que pour Maritain, il y a une erreur de parallaxe, on va dire, qui fait qu'on pourrait dire, oui, c'est une vision chrétienne, parce que c'est l'esprit qui va s'incarner, parce qu'il y a à la fois cette méthode et cette effectivité de la dialectique, et c'est une incarnation de l'esprit dans l'histoire et un devenir. Mais pour Maritain, l'erreur de parallaxe, elle est très en amont. Il y a eu cette erreur à la base, dans l'acte de connaître. Et on ne peut pas faire de la dialectique quelque chose qui renvoie à la fois à la méthode de la pensée et à la fois au réel. Donc, la critique de Maritain va porter sur la liberté. Est-il pensable de penser une liberté dans la dialectique hegelienne qui soit une véritable liberté à partir du moment où il y a une forme d'erreur à la base? Alors, comment le frère Schmitz répond-il en quelque sorte à la place de Maritain à partir de cette vision de la dialectique? Maritain a donné sa réponse à l'homme et l'État, mais voilà comment frère Schmitz répond. En plantant la dialectique au cœur de l'esprit et au cœur des choses, la pensée hegelienne constitue pareillement une violation du réel et une violation de la raison et des lois de son mouvement propre, à savoir la logique. Il n'est donc pas surprenant qu'une telle démarche ait de quoi dérouter un esprit non prévenu. Aussi bien, c'est Hegel lui-même qui nous avertit que le dialectique, tel qu'il est pris ici et qui consiste dans la saisie des opposés dans leur unité, ou du positif dans le négatif, est ce qu'il y a de plus difficile pour la pensée encore non exercée et non libre. De quoi faut-il se rendre libre? Écrit frère Heinz. N'est-ce pas de la logique d'abord, et puis plus radicalement de la raison? Quand Hegel vient à parler de la dialectique la plus vivante qui lui a été donné de rencontrer, il fait remarquer qu'une telle dialectique n'est point pour la raison pensante. Si l'on ne saurait donc entrer dans la dialectique sans opérer une métamorphose de la pensée, il est également vrai, écrit frère Heinz, de dire que c'est la dialectique elle-même qui se pose comme instrument de cette transformation. C'est pourquoi on peut dire que Hegel fusionne le spéculatif et l'opératoire dans une même et seule démarche dialectique. Cela explique, à mes yeux, pourquoi l'esprit, en entrant dans un mouvement qui va à rebours des lois de la logique, ne s'égare pas dans le discontinu et dans l'incohérent. Ce qui assure en effet à la démarche de la dialectique hegelienne sa cohérence interne, c'est l'expérience spirituelle de Hegel lui-même que celui-ci traduit en forme de discours. Quoique nous n'ayons à examiner ici ni la teneur, ni la nature propre de l'expérience hegelienne, il n'est cependant pas inutile d'indiquer en passant le lieu où est apparu à Hegel le dynamisme et la puissance absolue de cette force qui se trouve au centre de sa dialectique. Ce lieu, c'est le négatif. L'inégalité qui a lieu dans la conscience entre le moi et la substance qui est son objet est leur différence. Le négatif tout court. Il peut être considéré comme un défaut des deux, mais il est leur âme ou leur moteur. C'est pourquoi quelques anciens ont compris le vide comme l'élément moteur, en comprenant bien le moteur comme le négatif, mais ne saisissant pas encore le négatif comme le soi. Si donc ce négatif tout d'abord apparaît comme l'inégalité du moi et de l'objet, il est tout autant l'inégalité de la substance avec elle-même, écrit Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Frère Heinz conclut, en concevant la réalité comme constituée d'une façon dialectique, Hegel ne fait que projeter dans le réel un processus mental lié à un type singulier de fonctionnement de l'esprit humain. Ce type de fonctionnement, qu'on pourrait qualifier avec Marx de mystique, a déterminé une façon de penser, une forme de pensée, qui s'est affirmée en Allemagne bien avant Hegel. La naissance de cette Denkform, forme de pensée, a été un événement d'une portée immense, car il s'agissait là de l'avènement même de la dialectique, dont on voit le plus grand défaut, qui est finalement de mélanger le plan spéculatif et le plan pratique. Alors pour conclure, rendons la parole à Maritain, qui propose pour, comme société d'hommes libres, une société d'hommes libres au plan pratique, avec des principes fondateurs qui ont été ceux de la conférence de l'UNESCO et qui sont ceux de 26 paragraphes de la Constitution des droits de l'homme, publiée en 1948, 26 paragraphes, articles, dont Maritain est la source. Eh bien, la démocratie bourgeoise du XIXe siècle, elle peut être neutre en ce qui touche à la liberté parce qu'elle n'avait pas de réel bien commun, parce qu'elle n'avait pas de pensée commune, parce qu'elle n'avait pas de cerveau à elle, mais un crâne neutre et vide, tapissé de miroirs. La nécessité pour Maritain, c'est de trouver un bien commun, un credo philosophique ou religieux qui se présenterait comme la seule justification de la charte pratique dans laquelle s'exprime la commune foi, temporelle ou séculière. L'important pour le corps politique, écrit-il dans L'Homme et l'État en 1953, c'est que le sens démocratique soit en fait maintenu vivant par l'adhésion des esprits, si divers soient-ils, à cette charte morale.